clearly nobody does. Alors, on est complètement bilingue ici.
Parfaitement.
Juste pour vous présenter, vous connaissez tous le général de Kermabon, qui a passé un an comme le commandant du KFOR au Kosovo. Ce matin, devant non seulement les pays de l'OTAN, mais tous les pays contributeurs à la KFOR, le général a donné son rapport final comme commandant sur la situation au Kosovo à tous les ambassadeurs. Il a reçu des éloges, je pense que c'est le bon mot, du secrétaire général, de tous les ambassadeurs. Il a aussi reçu une médaille, Meritorious Service Medal de l'OTAN, un de nos plus grands honneurs, évidemment très bien mérité. Et il nous fait l'honneur de venir ici et vous parler, vous donner son perspective après un an au commandement du KFOR et répondre à vos questions. C'est « on the record ». Et le général, monsieur, c'est à vous.
Très bien, merci. Je ne sais pas comment voulez-vous qu'on procède, si je vous donne peut-être un
5-10 minutes.
5-10 minutes sur mon sentiment aujourd'hui à l'issue de ce commandement et ensuite réponse aux questions.
Super.
Bon, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que j'ai été extrêmement fier d'avoir été désigné comme KFOR il y a un an, à la fois par mon pays, la France, et que ma candidature ait été retenue par l'OTAN. C'était pour moi un défi important, un défi un peu inquiétant même au départ, et qu'au bout d'un an, je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant qu'on m'ait confié cette mission, qui a été pour moi une mission certes difficile, mais extrêmement enrichissante, et enrichissante dans trois domaines particuliers, au plan humain, au plan militaire et au plan politique. Alors je vais peut-être concentrer mon propos autour de ces trois points. Alors au plan humain, parce que le fait d'être responsable d'une force multinationale de 17 000 hommes composée de 35 nations différentes est une lourde responsabilité, mais qui m'a mis au contact permanent de tous ces contingents, pratiquement tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, qui m'a permis d'une part de faire leur connaissance, d'apprécier leurs compétences et d'utiliser au mieux les différentes compétences de chacun de ces contingents pour remplir la mission et de découvrir la richesse au plan humain de la contribution de toutes ces unités, de tous ces hommes et femmes. Richesse au plan humain également en termes international, puisque ça m'a donné l'occasion de rencontrer de multiples interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs présents sur le théâtre, et au premier rang desquels Søren Jensen Petersen, qui est le représentant spécial des Nations Unies, avec toute son équipe, mais aussi tous les grands responsables politiques et militaires qui sont passés au Kosovo pendant un an et avec qui j'ai eu l'occasion, bien entendu, de bavarder, de discuter, d'exposer mes idées à la situation telle que je la voyais au Kosovo et de recevoir en échange, bien entendu, un certain nombre aussi d'appréciations. Et puis richesse humaine au plan local, enfin, auprès de la population du Kosovo, des habitants du Kosovo. C'était ma troisième mission au Kosovo, puisque j'avais commandé la brigade multinationale Nord à Mitrovica il y a 3 ans, et j'avais été aussi l'adjoint du général Mini à l'époque où il était comme KFOR. Donc ça m'a permis de renouer un certain nombre de liens d'amitié avec les Kosovars, qu'ils soient serbes, albanais, bosniaques ou roms, sans différence bien sûr d'ethnicité ou de religion, d'en nouer des nouveaux. Et sachant que j'estime que la mission d'AKFOR est essentiellement destinée, bon, soutien bien sûr de l'UNMIC, des missions de l'UNMIC, mais aussi des populations du Kosovo, et qu'au travers de tous ces contacts que j'ai pu développer, j'ai appris à mieux connaître le Kosovo, son histoire, sa culture, l'organisation de sa société et la mentalité de sa population de façon à adapter au mieux le dispositif de l'OTAN, le dispositif militaire, aux besoins de la population. Alors, au plan militaire, expérience, deuxième point, expérience aussi absolument extraordinaire. Je suis arrivé 6 mois après les événements du mois de mars, donc dans une période assez dynamique. Mon prédécesseur, Jean-Luc Kamerov, avait déjà tiré les principaux enseignements et avait obtenu de l'OTAN un certain nombre d'améliorations du dispositif, de façon à faire de la KFOR une force plus flexible, plus souple, plus réactive, mieux adaptée aux conditions et surtout mieux dans la main du COMKFOR, car à l'époque, il y avait un certain nombre de restrictions d'emploi de la part des nations contributrices qui avaient freiné les possibilités de réaction et de coordination des actions de la KFOR. Donc j'ai continué dans ce sens-là, j'ai essayé d'accentuer, bien entendu, cette transformation en jouant sur 3 points, l'anticipation, la réaction et, si nécessaire, le renforcement. Alors, l'anticipation, bon, c'est évidemment tout ce qui précède l'action et c'est tout ce qui repose sur le renseignement, donc en essayant d'améliorer au mieux les capacités de renseignement, et pas simplement par des moyens techniques, certes qui sont importants mais qui ne sont pas suffisants, mais aussi, et je reviens sur ce point que j'ai déjà évoqué, contact avec la population. De façon à être capable d'anticiper, d'essayer de sentir la situation sur le terrain ou de prendre le pouls du Kosovo, si je puis dire, jour après jour, de tisser des liens de confiance et de façon à adapter notre dispositif aux inquiétudes du peuple kosovar. Donc ça, c'est extrêmement important et nous avons développé un certain nombre d'autres actions comme ces fameux RMT, Liaison Monitoring Team, qui sont des équipes attachées à chaque municipalité pour maintenir un lien, un contact permanent entre la force militaire et les responsables locaux pour faire monter et descendre les informations et pour garder ce contact. Le deuxième point, c'était bien sûr la capacité de réaction de la force. Et dans ce domaine, nous avons beaucoup travaillé sur la flexibilité et la réactivité en profitant de la situation et de la suppression des restrictions d'emploi de façon en faisant intervenir toutes les unités d'une zone dans une autre, en ne les gardant pas uniquement dans une seule zone, en échangeant beaucoup d'unités entre les différentes brigades, de façon à bien entraîner tout le monde à pouvoir intervenir sur n'importe quel point du Kosovo. Nous avons beaucoup, beaucoup travaillé avec l'UNMIC Police pour améliorer les contacts qui n'avaient pas toujours été bons, et en tout cas la coordination des actions, et éviter qu'en cas d'incident, nous puissions nous laisser surprendre, comme ça avait été le cas au mois de mars. Et nous avons beaucoup amélioré en même temps l'entraînement et la diffusion de cette confiance qui existait au plus haut niveau au sein de nos deux institutions, de façon à pouvoir travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. Et puis en fait, le troisième point, mais c'était celui qui nécessitait moins d'efforts parce qu'il avait bien marché, c'est la possibilité d'employer des réserves, puisque j'avais sur place et j'avais réussi à obtenir un bataillon de réserve tactique qui normalement me permettait d'intervenir très vite sur n'importe quel point du Kosovo pour renforcer telle ou telle unité, mais aussi la possibilité d'avoir des réserves tactiques qui étaient dans la main du COMJFC à Naples et qui à 2 reprises sont intervenues au moment des élections au mois d'octobre et au moment de l'anniversaire des incidents du mois de mars pour renforcer le dispositif et bien prouver à l'ensemble de la population kosovare et la détermination de l'OTAN à tout faire pour faire respecter l'ordre et la sécurité. Donc au plan militaire, un certain nombre de travaux, d'efforts et une expérience multinationale qui m'a permis de découvrir que d'une force aussi importante et aussi multinationale dont on pouvait craindre qu'elle ait une grande inertie, donc elle ressemble un peu à une tour de Babel, puisque c'est une expression que j'ai souvent entendue, on pouvait faire une force unie autour d'une mission commune, d'une intention commune, et ayant le sentiment d'appartenir à une force commune, alors agissant de façon parfois différente sur le terrain compte tenu des différentes nationalités, mais dans le même sens et dans la même direction. Et enfin, le troisième point, et je terminerai là-dessus, pour pouvoir ensuite répondre à vos questions, donc dans le domaine politique, une expérience aussi exceptionnelle, comme KFOR étant le représentant naturel de l'OTAN au Kosovo, donc en contact permanent avec tous les acteurs politiques, locaux et internationaux. Et donc, la détermination d'une politique commune avec Søren Jessen-Petersen visant d'une part à restaurer la confiance, mais aussi à donner des responsabilités aux acteurs locaux, partant du principe que ni les Nations Unies ni l'OTAN ne peuvent rester pendant des siècles au Kosovo, et que la gestion du futur de la province appartient bien aux Kosovars eux-mêmes, mais que pour cela, il faut les y préparer, il faut les encadrer, il faut les soutenir, Et donc, dans le domaine politique qui était celui de Jessen Petersen, il a beaucoup travaillé dans cette direction, mais que dans mon domaine qui était celui de la sécurité, j'ai fait la même chose, faisant passer en première ligne la jeune police kosovare, encadrée par la police internationale de l'UNMIC, et en garantissant que nous étions donc bien entendu en soutien immédiat derrière eux pour intervenir si c'était le cas. Ce qui a permis de gérer à la fois un bon déroulement des élections au mois de septembre, la constitution d'une petite alliance avec des KAK au mois d'octobre, la constitution d'un gouvernement, la nomination de M. Ramush Haradinaj comme Premier ministre, lequel, au bout de 3 mois, après avoir été inculpé, a immédiatement démissionné et s'est rendu agréé comme il l'avait promis, ce qui est pour moi un signe de maturité qui était le résultat de cet investissement que nous avions consenti en termes de confiance et de responsabilité. La constitution d'un deuxième gouvernement qui est actuellement en place avec Bayram Kossoumi comme Premier ministre. Et la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui vers l'examen des standards qui est conduit à l'heure actuelle par M. Kai Haïde, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et en fonction de cela, un processus en cours pour déterminer si oui ou non on pourra aborder le statut final du Kosovo. Donc tout cela, en tant que représentant de l'OTAN et acteur majeur sur la scène du Kosovo, ce qui pour moi a été, comme je le disais, une expérience extraordinaire et dont je garderai un souvenir exceptionnel. Voilà, grosso modo résumé mes impressions au bout d'un an comme Kefor. Je pense que le mieux, c'est peut-être maintenant de répondre à vos questions plutôt que de continuer à monologuer.
Bonjour, Léon Bruno, Agence France Presse. Bonjour. Si j'ai bien compris, la CAFOR donc, a été réorganisée non plus en secteur géographique, mais en, comment vous appelez ça, en task force. Bon. Je suis un peu perplexe sur le timing de ça, en sachant d'une part qu'il me semble que ça a pris pas mal de temps à mettre en place et que, si je comprends bien, ça va mettre pas mal de temps à mettre en œuvre, c'est-à-dire un an. Alors je me demande si derrière ça, il y a une inquiétude de votre part d'envoyer un mauvais message au mauvais moment, et donc vous faites ça vraiment de façon calculée, lente, ou est-ce que c'est un problème technique, enfin j'allais dire, de réorganiser une telle force?
Non, alors d'abord cette proposition qui a été faite depuis quasiment 8 mois maintenant, puisque les premiers plans qu'on avait proposés datent du mois de décembre, bon, a mis un peu de temps pour obtenir l'agrément du NAC, hein, qui a été obtenu au mois de juillet, lorsque je suis venu ici le 25 ou 27 juillet devant le NAC, pour proposer effectivement cette restructuration et bien expliquer les tenants et les aboutissants. Bon, je crois qu'il est parfaitement clair pour tout le monde, et ça a été bien clair au Kosovo dans la mentalité, que c'est une réorganisation militaire technique uniquement, destinée à mieux adapter la force à ce concept dont je parlais de rapidité, réactivité, etc. Et qu'en aucun cas, c'est une perte de capacité, mais bien au contraire. D'ailleurs, le nombre de compagnies de manœuvre de la KFOR, qui est aujourd'hui 53, restera exactement au même niveau et ne diminuera en aucun cas. Bon, la mise en place nécessite un certain temps, à la fois pour des raisons techniques, mais à la fois aussi pour des raisons de créneaux de relève des contingents nationaux. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire ça n'importe quand, n'importe quel moment, mais profiter de ces créneaux de relève pour transformer ces brigades actuelles en task force. Alors ça va se faire de façon, et si la situation continue à le permettre, ce que j'espère, de façon progressive, avec un premier créneau de relève au mois d'octobre pour la brigade Nord-Est, vraisemblablement un autre début de l'année prochaine pour la brigade Est, et puis au printemps pour la brigade Sud-Ouest, qui sera celle qui sera la plus difficile en termes techniques à réorganiser, parce que vous savez que cette brigade est le résultat de la fusion des deux précédentes brigades allemandes, enfin sous guide allemand et italien, qui vont se reséparer de nouveau pour donner naissance à 2 task forces. Donc si le processus suit son cours normalement et tel que ça a été planifié, compte tenu des actions des différentes nations contributrices et des impératifs techniques, le processus prendra entre 8 et 10 mois, mais se fera pas à pas pour aussi une autre raison, c'est-à-dire laisser en permanence à la force sa capacité de réaction et d'intervention, et surtout pas mettre la force dans une position de déséquilibre à un moment où on aurait besoin de réagir. Donc vous voyez que c'est un processus technique, militaire, bon, qui se met en place petit à petit, mais qui ne comporte, à mon avis, aucun risque, et qui, de toute façon, n'anticipe pas des périodes difficiles, mais vise simplement, comme toute force militaire, à se mettre dans la position la meilleure, de façon à être capable d'intervenir si besoin était.
Freddy.
Frédéric Bernard. Bonjour, mon général.
Bonjour.
J'ai trois questions qui sont un peu liées. La première est sur la responsabilité des événements qui ont eu lieu récemment où deux Serbes ont été abattus. Et la deuxième, vous voulez que je continue ? La deuxième étant donc l'effet de ça sur les négociations, sur pourparlers pour le statut. Et si ces pourparlers ont déjà commencé ou quelle en est la position ? Et la troisième question, surtout en vue de l'état de santé de Rugova, et le fait que Haradina est maintenant donc, à La Haye, est-ce qu'il existe une personnalité, l'équivalent de ces deux hommes qui ont été tous les deux un peu extraordinaires dans le sens du bon, c'est-à-dire ils avaient la tendance d'essayer de trouver une solution acceptable pour les deux côtés.
Bon, concernant la première question, c'est vrai que la semaine dernière, il y a deux Serbes qui ont été tués. Je voudrais dire qu'au Kosovo, il y a malheureusement entre 2 et 10 meurtres par mois. Ce sont des chiffres bon, qui sont regrettables, mais comme ça, et que pour moi, ce sont malheureusement deux meurtres supplémentaires, mais qui pour l'instant, et dans l'attente des résultats de l'enquête policière en cours, ne permettent pas de préjuger de la nature de ces meurtres. Tout est possible au Kosovo. Bon, il est sage et prudent, je pense, d'attendre les résultats de l'enquête pour essayer de déterminer quelle est la nature exacte de ces meurtres. Je voudrais simplement citer un petit incident qui a eu lieu il y a 3 mois, où un couple âgé serbe avait été très sérieusement battu dans un petit village qui s'appelait Serkelec, dans le nord du Kosovo. Et bien entendu, tout le monde s'est déchaîné en disant « c'est inadmissible, les Serbes ne peuvent pas vivre au Kosovo, ce meurtre interethnique, enfin, etc. etc. » L'enquête de police a démontré 6 semaines plus tard que c'était le fils de ce couple âgé qui avait passé à tabac ses parents pour des raisons de querelles familiales internes. Donc juste cet exemple pour dire que je crois qu'il faut rester très prudent dans ce domaine et attendre les résultats de l'enquête pour savoir si oui ou non il y avait des motifs interethniques ou non, ou si c'était simplement lié au crime organisé, comme c'est souvent le cas, ou à certaines vengeances intra-ethniques, ce qui est tout à fait possible également. Bon, l'impact sur les négociations, à mon avis, ça ne doit pas en avoir. On a malheureusement un certain nombre d'incidents régulièrement au Kosovo qui sont soit liés, comme je le disais, au crime organisé, soit qui sont des signaux ou des manifestations, j'ose pas dire traditionnelles, mais un petit peu coutumières, en tout cas au Kosovo, et qui ne remettent pas, à mes yeux, en cause la stabilité générale et la bonne sécurité générale au Kosovo, et donc en aucun cas ne devraient ralentir, pas plus qu'accélérer les négociations en cours, mais qui doivent être traitées dans le cadre normal de l'enquête policière. Les négociations en cours ou l'examen des standards devant continuer étant de la responsabilité de M. Hyde pour juger, si oui ou non la situation est satisfaisante, et M. Kofi Annan de décider si oui ou non le début sur la discussion des statuts est opportun ou non. Bon, concernant votre troisième question, d'abord, juste M. Haradina, il n'est plus à La Haye pour l'instant, puisqu'il est en liberté conditionnelle au Kosovo depuis 3 mois, assigné à résidence, avec un certain nombre de conditions dans sa position, et qui lui permettent de jouer un petit rôle administratif au sein de son parti, sans pour autant prendre de position politique. Bon, il est certain que l'état de santé de M. Rugova est préoccupant. Pour l'instant, celui qui est le plus à même éventuellement d'être d'incapacité de M. Rugova à exercer ses fonctions et le président de l'Assemblée nationale, M. Datsi, qui est également membre de l'ECDECA, et qui, je crois, aujourd'hui est sans doute la personnalité qui sera à même d'assurer une transition, si transition il devait y avoir, et le Premier ministre en charge actuellement, M. Bahram Kossoumi, de AAK, donc, et qui est issu de cette petite coalition entre l'ECDECA et l'AAK. Bon, pour être tout à fait honnête, je pense qu'effectivement, M. Aradinaï, pendant les trois mois où il était Premier ministre, a fait preuve d'un très fort leadership, a fait avancer les affaires, compte tenu de son caractère déterminé, qu'aujourd'hui il semble que le gouvernement en place soit un peu plus faible ou un peu moins de leadership. Bon, néanmoins, il suit les affaires et continue à assumer sa mission. Donc, dans l'état actuel des choses et en attendant d'en savoir plus sur le futur statut de M. Ramush Aradinaï, qui devrait être prononcé par le TPY dans les jours qui viennent, et sur l'état de santé de M. Rugova, je pense qu'il faut laisser le processus politique en cours, suivre son cours.
Nick Fiorenza, James, bonjour mon général. Bonjour. J'avais trois questions. La première question, pourquoi est-ce qu'on a, je ne me rappelle pas quand, mais il y a quelques ans, on a fusionné les brigades multinationales italiennes et allemandes. Et maintenant, pourquoi, après, est-ce qu'on en fait, c'est similaire à la situation avant. Ouais. Quels seront les pays à diriger ces multinational task forces? Deuxième question. Au début de KFOR, le commandant était toujours un commandant d'un corps comme ARC au début, ou Eurocorps, ou peut-être HQ. Land Center. Maintenant, je crois que le système a changé. Pourriez-vous expliquer comment le système pour choisir le commandant de KFOR? Et troisièmement, pourriez-vous expliquer un peu du système Friendly Force Tracking qui, je crois, a été introduit pendant votre quand vous étiez commandant de KFOR? Merci.
Tout à fait. Alors, en ce qui concerne les brigades, bon, c'est un peu l'histoire de la KFOR. Il y a deux ans, avant les événements du mois de mars, la situation semblait stabilisée et les décisions avaient été prises, effectivement, de restructurer un peu la KFOR pour décroître les effectifs et, en état final, arriver à cette deterrence presence que devait être la KFOR. Et donc, le projet avait été construit et... les deux brigades ouest et sud devaient fusionner, ce qui a été le cas, et la brigade nord et centre devaient fusionner, ce qui ne s'est pas fait à ce moment-là, du fait du départ des Britanniques qui ont quitté le Kosovo à ce moment-là. Donc, dans un handover difficile avec les pays nordiques, puisque c'est la Norvège qui a accepté de reprendre le commandement de la brigade centre, puis la Finlande, et aujourd'hui, c'est la République tchèque. Et donc, cette situation d'aujourd'hui s'est figée au moment des événements du mois de mars, où on a arrêté cette restructuration en se disant « bon, on a peut-être été trop vite, il faut maintenant voir comment vont se présenter les choses », qui explique cet état de fait. Bon, la phase, effectivement, en cours aujourd'hui, qui visait à complètement désectoriser les unités de façon à leur donner cette capacité de réaction et de mobilité au sein du Kosovo, donc c'est basé sur la composition de forces qui, si elles sont identiques au départ en termes d'effectifs, pourrait donner la possibilité de décroître les effectifs par la suite quand la situation le permettra, et donnera en tout cas donnera à la force une capacité supplémentaire de réaction et de souplesse sur le terrain. Donc d'où cette idée de retransformer la KFOR en 5 task forces, et pour l'instant, le fait que la brigade sud-ouest, dont le commandement est alterné entre l'Allemagne et l'Italie, se coupera en 2 task forces, l'une qui devrait naturellement être reprise sous guide italien et l'autre sous guide allemand. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'histoire et l'évolution normale de la KFOR qui suit en même temps la situation, bien entendu, politique et sécuritaire au Kosovo. Bon, sachant que ce processus qui a été accepté et qui est actuellement lancé est soumis, bien entendu, à des conditions de sécurité et de politique hein, qui vont conditionner le cadencement, si je puis dire, de cette restructuration. Bon, la deuxième question, effectivement, au début, quand KFOR est intervenu, c'était l'ARC, donc cette Air Readiness Force qui est intervenue le premier avec son état-major au complet constitué et qui a été ensuite effectivement suivi par des HRF constitués. Et puis, petit à petit, la situation se stabilisant, les tours se répartissant pour le KFOR entre l'Allemagne, la France et l'Italie. La situation là aussi a évolué et les relèves se sont faites partiellement et de façon permanente, si vous voulez, autour, au lieu tous les 6 mois, puisqu'au début c'était un mandat de 6 mois, de relever la totalité de l'état-major par un autre état-major. On a basculé sur un système beaucoup plus progressif qui fait que l'état-major se relève en permanence en fonction du poids des nations contributrices et en fonction des postes qui sont attribués aux nations, et que le tour de la responsabilité de commander la KFOR a été répartie entre la France, l'Allemagne et l'Italie, sachant que les postes en dessous sont également alternés dans ces trois nations, le chef d'état-major étant toujours un général de brigade américain pour l'instant. Voilà ce qui explique, si vous voulez, la situation actuelle de la KFOR et l'organisation actuelle de la KFOR. Enfin, votre troisième question concernant le Force Tracking System, c'est un outil extrêmement utile qui vise, qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est effectivement d'établir un lien de communication permanent à base d'un petit ordinateur et d'un GPS dont sont équipés les véhicules pour permettre d'identifier la position, les itinéraires des différentes patrouilles ou des différents éléments des KFOR qui sont en mission à l'extérieur, donc un moyen d'aide au commandement extrêmement précieux. Mais c'est aussi un moyen très performant de faire remonter très vite un renseignement urgent ou d'ambiance jusqu'au plus haut niveau des KFOR, de façon à pouvoir augmenter cette capacité de réaction qui est la base de ce concept aujourd'hui des KFOR, de réaction immédiate et très rapide. Donc ce système est en cours de l'installation au sein des KFOR. Les premières expériences sont particulièrement satisfaisantes et j'ai pu moi-même en vérifier l'utilité. Et il reste quelques petites restrictions techniques de montage et de fixation encore, mais à terme, c'est-à-dire très rapidement, cette capacité technique va donner une capacité tactique supplémentaire à la KFOR qui lui sera extrêmement utile.
Je suis Dragan Blagojević de l'agence de presse serbe Beta. Vous venez de dire que l'état de sécurité à Kosovo est bon. Vu les déclarations de Kai Aid, l'ambassadeur qui doit donner son rapport aux Nations Unies, vu la déclaration de l'ombudsman de Kosovo, M. Novitski, et sans parler des positions des Serbes de Kosovo et de Belgrade, on ne pourrait pas dire que la situation est idéale et bonne, même du point de vue de sécurité, parce que tout d'abord, il y a des incidents, il y a des assassinats, et surtout, il y a très peu, c'est pas plus comme minimum, des cas où la police de la MINUC, la police locale, ont réussi à découvrir les responsables pour les événements du passé, surtout les événements d'il y a un peu plus d'un an, et demi. Il y avait une rébellion organisée, il y avait une attaque systématique, etc., etc. Et donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est responsable pour tout ça. Est-ce que c'est une garantie pour que la sécurité puisse être bonne? C'est une, si vous permettez, la première question. Et la seconde question, du point de vue situation actuelle politique, qui est, dirais-je, liée d'après toutes ces analyses, et même les déclarations des gens politiques, des décideurs politiques à Kosovo. Est-ce que vous ne croyez pas que dans une situation où M. Rugova devrait s'effacer de la scène politique, c'est M. Tachi qui devrait prendre la position, disons, dominante, si ce n'est pas une question trop politique?
Alors, je peux répondre tout de suite à la deuxième question. Moi, je crois qu'il y a une démocratie en marche au Kosovo, qu'il y a un parti majoritaire, qu'il y a une alliance qui s'est faite, qu'il faut laisser faire la démocratie. M. Tachi, patron du PDK, représente 30% de voix. Donc, Il est, compte tenu de la coalition qui s'est créée, il est maintenant dans l'opposition avec Betansuroy au RA, et que c'est le jeu normal de la démocratie. Donc je ne peux pas vous répondre autre chose. Bon, et je ne vois pas pourquoi, en dehors de sa maladie aujourd'hui, qui peut peut-être être une raison, mais M. Rugova s'effacerait de la scène politique aujourd'hui, compte tenu de sa légitimité électorale et de ce que représente Eric Descartes aujourd'hui au Kosovo. Concernant votre première question, je reconnais volontiers avec vous que la situation n'est pas parfaite. Je pense qu'il y a effectivement des lacunes. Dans les enquêtes de police, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas abouti. Hein, et c'est regrettable. Je pense que ce n'est pas pour ça que la police a abandonné, mais continue à poursuivre ses investigations, ce qui est toujours très difficile. Et pas, bon, et surtout pour une police internationale qui ne parle pas forcément la langue, et qui a un certain nombre d'enquêtes à mener dans des conditions difficiles. La jeune police du Kosovo, KPS, ayant fait de gros progrès depuis 6 ans, mais n'ayant pas encore toutes les capacités et les compétences nécessaires pour traiter des affaires difficiles et des enquêtes de ce genre-là. Ceci étant, je maintiens ma position sur mon appréciation générale de la sécurité, car quand vous regardez les chiffres, et des chiffres que la CAFOR partage avec l'UNMIC, tous les chiffres liés effectivement à des incidents, à des crimes ou à un manque de sécurité sont en décroissance. Bon, il y a, je vous disais tout à l'heure, entre 2 et 10 assassinats par mois au Kosovo. C'est loin d'être satisfaisant. Je suis d'accord avec vous. Mais quel pays aujourd'hui au monde où la sécurité est respectée à 100%? Je crois que la sécurité absolue n'existe nulle part. Alors, je crois qu'il faut regarder les chiffres. Il faut aussi regarder, et ça c'est extrêmement important, et c'est quelque chose que je me suis attaché à faire, à lutter contre la désinformation. C'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre la réalité du Kosovo au Kosovo et au travers des yeux des Kosovars. Et qu'aujourd'hui, la liberté de circulation existe et la sécurité globale existe. Elle est plus ou moins bonne aussi en fonction des régions. Mais il existe un certain blocage psychologique encore, qui est parfaitement compréhensible. Loin de moi l'idée de vouloir accuser les gens, mais les événements de mars sont encore extrêmement récents dans la mentalité des minorités, en particulier des Serbes. 99 est pas si loin non plus. Donc on a encore affaire à une population qui est traumatisée. On a encore affaire à des gens qui ont très présent à l'esprit ce qui s'est passé en 99 et au mois de mars. Et le motto dont je m'étais fait, que je m'étais approprié, c'était de restaurer la confiance. Et ce que je dis, c'est que entre la sécurité et la confiance, il y a un lien évident, et que pour casser la confiance, il ne faut pas beaucoup de temps, pour la restaurer, il faut beaucoup de temps. Mais si vous voulez, si on regarde tous les chiffres, l'évolution des chiffres depuis 6 ans, les chiffres montrent tous cette amélioration de la situation en termes de sécurité. Et montre tous que la liberté de mouvement existe. Donc je crois qu'il faut capitaliser sur ces bons résultats, en sachant que, bon, c'est pas parfait, comme je le disais, et qu'il y a encore sûrement beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, qu'un des grands challenges du Kosovo demain, c'est la sécurité intérieure et le respect de la loi, et que pour ça, il faudra sans doute continuer pendant longtemps, d'une part, assurer un minimum de présence militaire au Kosovo, et deuxièmement, continuer à épauler, encadrer la jeune police du Kosovo pour assurer une véritable lutte contre le crime organisé, qui est un défi important pour le Kosovo de demain.
Excusez-moi, j'ai une autre question, toujours sur la réorganisation. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y aura pas de réduction des capacités de la CAFOR, mais est-ce que vous pouvez dire précisément, en termes de personnel, de soldats, donc, de quel effectif sera la CAFOR réorganisée? Et deuxième question, je la pose tout de suite, tant qu'à faire, parce qu'elle est liée. J'ai le souvenir du général Jones qui déclarait, je crois que c'était en début de l'année dernière, mais ou à la fin de l'année dernière, où il disait que globalement, les 3/4 des effectifs de la CAFOR étaient associés à la logistique ou à des choses comme ça, mais enfin, n'étaient pas mobiles, justement. Est-ce que ce ratio-là va changer de façon significative ou pas?
Mais écoutez, moi, non, on fait tout ce qu'on peut pour changer, mais je pense que cette question n'est pas une question qui peut être résolue par l'OTAN, c'est une question qui appartient aux États contributeurs. parce que, comme vous le savez, la logistique est nationale. Donc pour soutenir une force multinationale comme la CAFOR aujourd'hui, il y a effectivement un ratio tous-toutelle ou de logistique par rapport aux combattants qui est important. Donc l'idée vise effectivement à réduire autant que faire se peut ce ratio, de façon à diminuer les forces de soutien, et donc à agir sur les pays contributeurs pour que, soit par des accords, soit par un certain nombre d'accords entre eux, ils puissent éventuellement, on puisse multinationaliser la logistique et multinationaliser un certain nombre d'éléments qui pourraient être communs aux différentes forces présentes aujourd'hui au Kosovo. Donc aujourd'hui, il y a 16 500 et quelques soldats au Kosovo. Théoriquement, la réorganisation, et sur ces 16 500 soldats, il y a, comme je vous l'ai dit, 53 compagnies de manœuvre qui ne diminueront pas dans l'année qui vient. Donc ce chiffre-là restera le même, à la marge, en fonction de ce que feront les nations contributrices pour diminuer ce soutien logistique. À terme, bon, et je ne sais pas quand, effectivement, la situation dans laquelle sera le KFOR après cette restructuration pourra permettre de diminuer assez rapidement les effectifs en fonction de la situation. Mais je peux guère être plus précis aujourd'hui, car ce sont des responsabilités et des chiffres qui ne m'appartiennent pas.
Mais je ne comprends pas, parce que vous êtes à la tête de cette force, vous la réorganisez.
Oui.
Enfin, vous êtes commandant sur le terrain. Vous la réorganisez. Ouais. Ça fait donc un an ou plus qu'on réfléchit à ces scénarios de réorganisation. Vous avez le général Jones qui dit que qu'il faut réduire les effectifs parce qu'en gros, ils ne sont pas très efficaces. Donc vous faites cette réorganisation et vous êtes incapable de me dire.
Mais je maintiens ma position. Si vous voulez, bon, on hérite d'une situation d'une CAFOR à 50 000 hommes. Puisque quand en 99 la CAFOR est entrée au Kosovo, il y avait 50 000 hommes. 50 000 hommes, ça a nécessité un certain nombre d'investissements en termes de logistique, en termes d'infrastructures, en termes de camps, en termes de personnel dédié à la garde des camps, etc. Bon. Ce sont des investissements nationaux, puisque chaque nation est responsable en termes logistiques, en termes de financement, en termes de soutien de ses soldats. Donc aujourd'hui, bon, la force a diminué considérablement, puisque de 50 000 hommes, on est passé à 17 500 hommes, mais il y a encore tout un tas, effectivement, d'organisations logistiques et d'infrastructures héritées du passé qui sont dans la main des nations contributrices. Et donc, le raisonnement du général Jones, que je connais bien et que je partage entièrement, est de dire aux nations contributrices, faites des économies, diminuez votre soutien logistique, trouvez des agréments entre vous pour effectivement multinationaliser une part de la logistique. Mais là, s'arrête, si vous voulez, la capacité de l'OTAN d'agir sur les pays contributeurs. Et si chaque pays contributeur veut, pour le moral, pour le confort, pour la nourriture, pour le soutien de ses soldats, entretenir une logistique importante, après tout, c'est son problème. Et donc, la force vive, effectivement, de la KFOR sur laquelle on peut agir en permanence et qui, effectivement, remplit le cœur de la mission, elle, est un minimum auquel on ne touchera pas, enfin, un chiffre auquel on ne touchera pas dans les mois qui viennent. Mais pour le reste, c'est une responsabilité nationale pour laquelle ni SACUR, ni comme KFOR, en dehors de conseils ou de pression qu'on peut faire sur la nation contributrice, ne peuvent vraiment jouer. C'est bien. C'est
bien les 17 000,
mais oui, bien entendu. Mais oui, bien entendu.
C'est tout le temps. Je vois qu'il y a un assistant assez pressé. Mon général, merci. C'était.
Moi, je vous en prie.
Encore une fois, et peut-être pour la dernière fois, mais un grand plaisir. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous tous.
We will continue on background now. I have four issues for you. Anglais. Moi, je suis anglophone. Merci.
Okay, thank you very much. Good luck, everybody.
Thank you.
Thank you.